Daf Lamed Vav Amud Alef à la sixième ligne. On a vu dans la Mishnah que on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de Achilat Matzah avec une matzah qui a été faite avec du Maaser Sheni si on la mange à l'extérieur de Yerushalayim. La Braïta que la Gemara rapporte maintenant va rapporter une machloket. Est-ce qu'on peut s'acquitter de la mitzvah de Achilat Matzah en mangeant une matzah qui a été faite avec du Maaser Sheni à Yerushalayim même? On a le droit de consommer le Maaser Sheni. Tanou Rabanan, on a enseigné dans une Braïta, Yachol Yotze Adam Ede Chovato Be Maaser Sheni Be Yerushalayim. On pourrait croire qu'un homme peut s'acquitter de sa mitzvah de Achilat Matzah en mangeant une matzah qui a été faite avec du Maaser Sheni à Yerushalayim. Talmud Lomar, Lechem Oni. Le pasouk dit à propos de la matzah Lechem Oni, et on interprète comme si c'était écrit Lechem Oni avec un Aleph et pas un Aïn. Et de là on apprend que la matzah doit pouvoir être mangée en état de aninut. Quelqu'un qui est onen, c'est quelqu'un qui a perdu un proche le jour du décès de ce proche, donc pour lequel il doit prendre le deuil, il est considéré comme onen. Donc il faut que la matzah puisse être mangée lorsqu'il est onen. Yatzaze shenon echal ba'aninut ela besimcha, divrei Rabbi Yossi Hagalili. Donc ça exclut cette matzah qui a été faite avec du maaser sheni, parce que le maaser sheni, on n'a pas le droit de le manger quand on est onen, seulement quand on est dans un état de simcha, de joie, et pas donc le jour du décès d'un proche. C'est l'avis de Rabbi Yossi à Galilée. Rabbi Akiva Omer, alors que Rabbi Akiva dit « Matzot, matzot, riba ». Comme c'est écrit plusieurs fois dans le pasouk, le mot « matzot » s'inclut qu'on peut aussi s'acquitter avec une matzah de maaser sheni à Yerushalayim. Imken matalmud lomar lechem oni. Alors pourquoi le pasouk dit lechem oni? Prat leisa shenilosha biyain veshemen vash. Ça vient exclure une pâte qui a été pétrie avec du vin, de l'huile ou du miel. Donc là, ça s'appelle pas lechem oni, un pain de pauvreté. C'est une matzah ashira, c'est une matzah qui est riche, parce qu'on a ajouté des produits qui sont des produits utilisés par les riches dans la pâte. Donc, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de achilat matzah avec. Maïta Hama de Rabbi Akiva. La Gemara demande quelle est la raison de Rabbi Akiva, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il n'interprète pas comme Rabbi Yossi Galili que l'Echem Oni, ça veut dire Aninut, Oni, qu'on peut manger quand on est onen. La Gemara dit Miktiv l'Echem Oni, Aniktiv. C'est pas écrit dans le pasouk l'Echem Oni avec un Vav, pour qu'on puisse l'interpréter comme Oni avec un Aleph, mais c'est écrit Ani, c'est écrit sans Vav. Donc, ça vient faire référence à la pauvreté, un pain de pauvre et pas un pain de riche. Donc, comme l'écriture de ce mot, c'est « ani », même si la lecture, c'est « oni », mais on interprète comme si c'était écrit « ani », un pain de pauvre, et pas comme si c'était écrit « oni » avec « aleph ». Mais Rabbi Yossi Galili, et Rabbi Yossi Galili, qu'est-ce qu'il répondra à cet argument? « Mi karinan ani, oni karinan ». Mais Rabbi Yossi Galili dit par rapport à la lecture de ce mot, on le lit pas ani, on le lit oni, donc c'est pour ça qu'on interprète comme si c'était écrit oni, ça ressemble plus à oni, et ça ne ressemble pas à l'echem ani. Mais Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va apprendre donc de la lecture du pasouk, aide karinian beroni kedeshmuel. Donc le fait que on lise ce mot oni, c'est pour nous apprendre le din de Shmuel, d'Amar Shmuel, parce que Shmuel a dit, Lechem Oni, donc la matzah s'appelle Lechem Oni, Lechem She Oni Nalav Dvarim Arbe, ça veut dire un pain sur lequel on dit beaucoup de choses, ça veut dire le Halel et la Haggadah, que la matzah doit être présente sur la table au moment où on dit le Halel et la Haggadah. La Gemara demande de savoir Rabbi Akiva, Issa She Ninosha Be'ein Veshemen Vashlo, est-ce que Rabbi Akiva pense qu'une pâte qui a été pétrie avec du vin, de l'huile et du miel, on ne peut pas s'acquitter avec de la mitzvah de achilat matzah. Ve'atania, pourtant enseigné dans une braïta, en lachin issa ba pesach biyain veshemen udvash. On n'a pas le droit de pétrir pendant pesach une pâte avec du vin, de l'huile et du miel. Ve'im lach, et dans le cas où il l'a pétri, Rabban Gamliel omer tisaref miyad. Rabban Gamliel dit que il faut la brûler immédiatement, parce que lorsqu'on met ces choses-là, donc le vin, l'huile ou le miel ou des jus de fruits dans la pâte, ça devient chametz très rapidement. On n'a pas la possibilité de faire attention que ça ne devienne pas chametz. Donc c'est pour ça que si on a pétri une pâte pareille, il faut la brûler immédiatement. Et Rashi précise qu'on parle pendant Chol HaMoed, où on peut la brûler immédiatement, mais si ça arrive pendant Yom Tov, là on n'a pas le droit de la brûler immédiatement parce qu'on n'a pas le droit d'allumer du feu chez l'eau et de puisqu'on ne va pas l'utiliser pour la manger. Donc là on devrait attendre la fin de Yom Tov. Alors Rashi pose une question, il demande, mais on avait vu plus haut que Resh Lakish a dit que mes perot en marmitzin, que les jus de fruits ne rendent pas chametz. Donc comment ça se fait que ici on dit que ça devient chametz rapidement? Et Rashi répond que ça veut dire que quand Resh Lakish a dit plus haut d'Aflamedhe que les jus de fruits ne rendent pas chametz, ça veut dire qu'ils ne rendent pas complètement chametz. Ça devient pas un chametz gamour pour lequel on est chalav karet. Mais ça devient ce qu'on appelle un chametz nouché. Chametz nouché, c'est un mauvais chametz, c'est-à-dire un chametz qui n'a pas complètement fermenté. Donc effectivement, avec le jus de fruits, ça ne deviendra pas du chametz gamour, mais ce chametz nouché, il deviendra rapidement et il est aussi interdit. Donc c'est pour ça que, d'après Rabban Gamliel, il faut le brûler immédiatement. Il y a d'autres rishonim qui pensent, donc ça veut dire que Rashi pense qu'ici on parle d'une pâte qui a été pétrie uniquement avec des jus de fruits sans eau. Mais il y a d'autres rishonim qui pensent que ici on parle d'une pâte qui a été pétrie avec des jus de fruits mais aussi avec de l'eau. Contrairement à ceux dont Resh Lakish a parlé où il parlait d'une pâte qui a été pétrie exclusivement avec des jus de fruits. Et lorsqu'on ajoute aussi de l'eau, qu'on met et de l'eau et des jus de fruits, là effectivement ça devient plus rapidement chametz que d'habitude. C'est pour ça que Rabban Gamliel dit qu'il faut la brûler immédiatement. Alors que Chachamim disent que on peut la manger. Il y a une autre Gersa qui dit teafemiyad, c'est-à-dire qu'il faut la cuire immédiatement parce que effectivement ça devient chametz plus rapidement. Donc il faut prendre la précaution de la cuire très rapidement pour ne pas qu'elle devienne chametz. Et effectivement, c'est ce qu'on est posé que la halakha, qu'une pâte qui a été cuite, qui a été, pardon, pétrie avec des jus de fruits, avec de l'eau, elle devient rapidement chametz. Donc il ne faut pas la faire, a priori, avec des jus de fruits et de l'eau. Mais bediavad, si on l'a faite, il faut la cuire immédiatement. Ve'amar Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva a dit, Shavati Aïta Etzel Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua, j'ai passé la fête de Pessah auprès de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et je leur ai pétri une pâte avec du vin, de l'huile et du miel, et ils ne m'ont rien dit. Et donc, c'est la question de l'Agmara. On voit que ici Rabbi Akiva pense que on peut faire de la matzah en pétrissant de la pâte avec de l'huile, du vin ou du miel, alors que plus haut il a dit qu'on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de la Achilat Matzah avec. Et la Braïta continue, va falpi shen la shin mekat finbo. Donc bien qu'on n'a pas le droit de pétrir la pâte avec du vin, de l'huile ou du miel, mais on peut appliquer du vin, de l'huile et du miel sur la pâte une fois qu'on l'a formée. Si on ne pétrit pas avec, mais juste on applique, on enduit le pain de vin, d'huile ou de miel, c'est permis. Et l'Agma a dit, Atan le Tanakama. Là, cette phrase, on revient à Tanakama qui a dit que on ne peut pas pétrir avec de l'huile, du vin ou du miel, mais il pense que on peut quand même enduire la pâte de ces produits-là. Vachachamim omrim, alors que Chachamim disent, et shelashinbo mekatfinbo, ve'et shelashinbo en mekatfinbo. Ce avec quoi on peut pétrir la pâte, on peut aussi l'appliquer sur le pain une fois fini, mais ce qu'on ne peut pas utiliser pour pétrir la pâte, donc ça veut dire le vin, l'huile et le miel, on n'a pas le droit non plus de l'appliquer le pain une fois fini. Veshavin, et ils sont tous d'accord qu'on ne peut pas pétrir de la pâte avec de l'eau tiède, parce que lorsque l'eau est un peu chaude, ça active le processus de fermentation, de chimout, et donc ça devient chametz rapidement. Donc l'agmara demande, Rabbi Akiva se contredit. L'agmara répond, la kashia, c'est pas contradictoire, ha beyom tov rishon, ha beyom tov sheni. Quand Rabbi Akiva a dit que on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de achilat matzah avec une pâte qui a été pétrie avec du vin, de l'huile et du miel, il a parlé du premier jour de Yom Tov, c'est-à-dire le premier soir de la mitzvah de achilat matzah. Alors que dans la deuxième braïta, où il a dit que on a le droit de pétrir une pâte avec du vin, de l'huile et du miel, c'est Yom Tov Sheni, c'est-à-dire en réalité le reste de la fête, quand il n'y a pas d'obligation de manger de la matzah. Et donc, par rapport à cette matzah qui n'est pas pour la mitzvah de Achilat Matzah, effectivement, on peut utiliser une pâte qui a été pétrie avec ces choses-là. Kedamar Lehu Rabbi Yoshua ben Levi Livne, comme Rabbi Yoshua ben Levi a dit à ses fils, Yoma Kama Lotalo Shuli Bechalva, Mikanvaila Achlo Shuli Bechalva. Il leur a dit, pour le premier jour de Pessah, c'est-à-dire pour le premier soir, pour la mitzvah de Achilat Matzah, ne pétrissez pas la matzah avec du lait, mais pour le reste de la fête, vous pouvez pétrir la matzah avec du lait. Elma s'étonne et demande, Vatania, en lachin taïsa bechalav, veimlash kolapat asura, mipne ergel avera. Mais pourtant, on sait dans une braïta que on n'a pas le droit de pétrir de la pâte avec du lait, même pendant l'année, de peur qu'il la mange avec de la viande. Et dans le cas où il a pétri une pâte avec du lait, ce pain est interdit, c'est-à-dire même bédiavad, il est interdit, on n'a pas le droit de le consommer, de peur qu'on le consomme avec de la viande. Donc comment ça se fait qu'il leur a dit qu'il pouvait pétrir la matzah avec du lait? La Gemara a dit, et là, Achika Amar. Donc il faut dire que ce que Rabbi Yoshua ben Levi a dit à ses fils, c'est la chose suivante. Yoma Kama Lo Talo Shuli Bedusha, le premier jour, ça veut dire pour la matzah de la mitzvah de Achilat Matzah, ne pétrissez pas la matzah avec du miel. Mikanvaelach Lushuli Bedusha. Mais pour le reste de la fête, vous pouvez pétrir avec du miel. Veibaitema, la Gemara propose une autre réponse. Leolam Bechalva. Donc on va maintenir que ce qu'il leur a dit, c'est qu'ils pouvaient pétrir pour le reste de la fête avec du lait. Alors, mais on a posé la question, mais dans la Braïta, c'est qu'on n'a pas le droit de pétrir une pâte avec du lait, de peur qu'on la mange avec de la viande. Kedéama Ravina, comme ce que Ravina a dit, Kéen Torah Shari, il a dit que si on fait la pâte comme un œil de bœuf, c'est permis. Alors, que ça veut dire comme un œil de bœuf, il y a deux explications, qui sont toutes les deux retenues dans la halakha. C'est soit, c'est une petite quantité de la taille d'un œil de bœuf, donc on la mange immédiatement en une fois, et on ne risque pas de la garder et d'oublier qu'elle est faite avec du lait et de la manger avec de la viande. Soit, Kéhen Torah, ça veut dire de la forme d'un œil de bœuf, ça veut dire qu'on lui donne une forme particulière pour se rappeler que c'est pas un pain ordinaire et c'est un pain qui a été pétri avec du lait, et comme ça on risque pas de le manger avec de la viande. Donc, à Hanami Kéhen Torah. Ici aussi, quand il leur a dit qu'il pouvait pétrir la matzah avec du lait, ça veut dire comme un œil de bœuf. Donc on a vu plus haut dans la Braïta que tous les Tanaïm sont d'accord qu'on ne peut pas pétrir la pâte de la matzah avec de l'eau tiède parce que ça la rend chametz rapidement. La Gemara demande Maishna Menachot, quelle différence avec les Menachot? Les Menachot aussi, la plupart des Menachot devaient être matzah, elles ne devaient pas être chametz. D'Etnan, on en sait dans la Mishnah, Kol ha-Menachot niloshot be-poshrin ou me-shamran shelo yachmitsu, que toutes les Menachot, on peut les pétrir avec de l'eau tiède, il faut simplement surveiller qu'elles ne deviennent pas chametz. Donc, quelle différence entre les Menachot, où on permet de les pétrir avec de l'eau tiède et on ne craint pas qu'elles deviennent chametz? Pourquoi la matzah, on ne permet pas de la pétrir avec de l'eau tiède et on craint qu'elle devienne chametz? Agmara répond, Imamru bizrizin, Yomru beshen zrizin. Ce qu'on a dit pour les Menachot, parce que qui est-ce qui faisait les Menachot? C'est les Kohanim. Les Kohanim sont zrizin, c'est-à-dire ils sont zélés, ils sont vigilants, et on peut leur faire confiance qu'ils vont faire attention que ça ne devienne pas Hametz. Alors que la Matzah, qui est faite par tout le monde, donc ça peut être fait aussi par des gens qui ne sont pas zélés, qui vont pas être vigilants, et qui vont pas faire attention qu'elles ne deviennent pas Hametz. Agmara demande, Yachim el tatnamilatit. Mais alors, si c'est comme ça, les Menachot, on devrait aussi avoir le droit de tremper le blé dans de l'eau, ce qui permet après d'enlever l'enveloppe du blé et d'obtenir une farine plus blanche, plus propre, pour les Menachot. Donc, si on dit que les Kohanim font attention que ça ne devienne pas Hametz, pourquoi est-ce qu'on ne leur permet pas aussi de tremper le blé pour avoir une farine plus blanche? Alama Amar Rabbi Zera Amar Rabba Bar Yirmiya Amar Shmuel Chitin Shel Menachot El Lo Titinota. Alors pourquoi est-ce que Rabbi Zera a dit au nom de Rabba Bar Yirmiya qui a dit au nom de Shmuel que le blé avec lequel on fait les Menachot, on n'a pas le droit de le tremper? La Gemara répond Lisha Bizrizinita Letita Leta Bizrizin. La différence c'est que le pétrissage il est fait par les Kohanim qui sont Zrizin, alors que le trempage du blé c'est pas fait par les Kohanim, c'est-à-dire que celui qui apporte une mincha et qui n'est pas Kohen, il apporte déjà de la farine une fois qu'elle est moulue, Donc l'étape du trempage qui est avant de moudre la farine n'est pas faite par les Kohanim. La Gemara demande Velisha Mita Bezrizin, mais est-ce que le pétrissage lui-même est fait par les Kohanim? Ve'aktiv, pourtant c'est écrit dans le Passouk, Ve'atzak alea shemen ve'gomer, ve'via el a Kohen. Donc c'est écrit dans le Passouk, c'est pas écrit exactement comme ça. C'est écrit Ve'atzak alea shemen ve'natan alea levonai, ensuite Ve'via el bnei Aaron a Kohanim. Et de là on apprend Mikmitza va'elach mitzvat keuna. Donc après c'est écrit Ve'kamatz misha melo kumtso. De là on apprend que c'est à partir de la kmitza qu'il faut que ce soit fait par la keuna. Donc quand le Kohen prend la poignée de la mincha, et c'est à partir de ce moment-là seulement que ça doit être fait pour le Kohen, l'imed al yetzika oblila shekshira bechol adam. Et de là on apprend que l'étape de la yetzika et de la blila peuvent être faites par tout le monde. Alors c'est quoi la yetzika et la blila? On va expliquer d'après Rashi, ça ne correspond pas à tous les avis, mais Rashi explique qu'il y a différentes sortes donc de mincha. Il y a minchat machavat, minchat marcheshet, minchat mafetanour, qui sont cuites dans différents ustensiles. Donc on commence par cuire donc 10 pains de matzah. Ensuite on les émiette, on en refait de la farine qu'on mélange avec de l'huile. Ensuite on verse à l'intérieur de l'huile et on prend le kometz. Donc quand on a cuit la mincha, donc c'était à ce moment-là, c'était encore avant la yetzika et la blila. Même la yetzika et la blila qui sont après la cuisson, ça peut être fait par quelqu'un d'autre qu'un Kohen, ça peut être fait par un Zar. Donc à plus forte raison la cuisson et le pétrissage qui est encore avant. La Gemara répond, l'isha nehi de bizrizin ita, bimkom zrizin ita. Le pétrissage, bien que il n'est pas fait forcément par des Kohanim, mais on le fait à l'endroit où il y a les Kohanim, c'est-à-dire qu'il faut le faire dans la Hazara. Et Rashi explique parce que c'est fait dans des clécharettes, on les fait dans les ustensiles du Beth Amikdash. Et comme on le fait dans la Hazara, donc les Kohanim le voient et ils leur diront de faire attention. Donc Dea Marmar, parce que on a enseigné Blila Kshera Bezar, la Blila, donc mélanger la mincha avec de l'huile, ça peut être fait par un zar, par quelqu'un qui n'est pas Kohen. Chutz le chomat azara, psula. Mais par contre, si on l'a fait à l'extérieur de la muraille de la Hazara, si on l'a fait en dehors du Beth Amikdash, de la Hazara du Beth Amikdash, elle est psula. Alors les Rishonim posent la question. On parle ici de la blila. D'après Rashi, la blila c'était après la cuisson. Donc en quoi c'est une preuve par rapport au pétrissage? Qui a dit que le pétrissage devait se faire à l'intérieur de la Hazara? Il y a différentes explications. Donc la Gemara dit la pouquet les tita, hein, d'Ena bizrizin velo bimkom zrizin. Mais ça exclut l'étape de la letita. Donc si on trempait le blé dans de l'eau, là c'est pas fait ni par des Kohanim, ni même dans la Hazara où les Kohanim se trouvent. La Gemara demande Maishna minchata omer, d'Etania minchata omer lotetim nota et tsovri nota. Mais quelle différence avec la minchata omer, donc cette mincha qu'on a portée le 16 Nissan, et on a enseigné à propos de la minchata omer que on trempait le blé dans de l'eau et ensuite on la mettait en tas donc pour que l'eau s'écoule. Donc comment ça se fait que on l'a permis pour Minchat HaOmer et pour les autres Minchat on ne le permet pas? La Gemara répond, Tzibur Sha'aneh. Quand c'est la Minchat HaOmer comme c'est fait en Tzibur, c'est une Mincha qui est publique, qui est faite par le Beth Din, tout le processus est fait par le Beth Din. Donc le Beth Din, ce sont des gens Zrizin. C'est des gens qui vont être vigilants, qui vont faire attention que ça ne devienne pas Hametz. Tanoura Banane, on enseigne dans une braïta, Yachol yotze Adam et Dechovato et Bikurim. On pourrait penser qu'on peut s'acquitter de la mitzvah de Achilat Matzah avec une matzah qui a été faite avec du blé des Bikurim. Donc ça veut dire qu'il y a une mitzvah de Bikurim d'apporter les prémices, le début de la production des Shiva Taminim, donc entre autres le blé. Donc si on a apporté des bikourim de blé à un Kohen, on les donnait au Kohanim, et donc il va les manger à Yerushalayim, on pourrait croire que le Kohen peut s'acquitter de la mitzvah de Achilat Matzah avec une matzah qu'il a faite avec des bikourim, avec du blé de bikourim. Talmud Lomar, Bechol Moshevotechem Tochlu Matzot. Le Passouk dit, Bechol Moshevotechem Tochlu Matzot, dans toutes vos demeures, dans toutes vos habitations, vous mangerez des matzot. De là, on apprend, Matzah Anaechelet Bechol Moshevotechem, qu'il faut que ce soit une matzah qui puisse être mangée partout, Yatsur bikurim shen nechalin bechol moshot echam et la birushalayim. Donc ça exclut les bikurim qu'on ne peut pas manger partout, seulement à Yerushalayim, d'ivre Rabbi Yossi à Galilée. C'est l'avis de Rabbi Yossi à Galilée. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit qu'on la prend d'autre part. Matza ou Maror, il y a une comparaison dans le pasouk entre la Matza et le Maror, parce que c'est écrit Al Matzot ou Morim Yurklou. Ma Maror sheno bikurim, de la même manière que le Maror, ça ne peut pas être des bikurim, parce que c'est seulement les Shivat Aminim qui sont Chayav de Bikurim, or le Maror ne fait pas partie des Shivat Aminim, Af Matza Shena Bikurim. Donc la Matza aussi ne doit pas être des Bikurim. Ima Maror Shen Bemino Bikurim, Af Matza Shen Bemina Bikurim. Mais alors si ça a été comparé, si la Matza a été comparée au Maror, alors peut-être qu'on va dire que de la même manière que le Maror, il n'existe pas dans son espèce du tout de Bikurim, la Matza aussi, il faudrait qu'on l'apporte d'une espèce de laquelle on n'apporte pas de bikurim, otsi chitin ou seorin shesh beminan bikurim, et donc ça va exclure le blé et l'orge que dans leur espèce il peut y avoir des bikurim, c'est-à-dire que même si eux-mêmes ne sont pas bikurim, mais comme de cette espèce du blé et de l'orge on apporte des bikurim, donc on ne pourrait pas faire la matza avec. Alors on avait vu que la matza peut être faite avec du blé et de l'orge de l'épeautre, de l'avoine et du seigle. Donc, Ritin, Seorin, Kousmin, Shibulat, Shual et Chiffon. Donc, on avait vu aussi plus haut dans l'Agmara que l'épeautre Kousmin, c'est Minchitin, c'est une variété de blé. Et Shibulat, Shual et Chiffon, c'est une variété de Seorin, d'orge. Et donc, certains posent la question, les Rishonim posent la question, mais alors, si on exclut le blé et l'orge parce que on apporte les bikurim, on doit apporter aussi les bikurim des autres espèces de Kousmin, Shibulat, Shual et Chiffon, donc on ne pourrait rien apporter. Alors certains disent que même si Kousmin c'est Minchitin et Shibulat, Shual et c'est Shibulat, Shual et Chiffon sont Minseorim, mais on n'apporte pas de bikurim de ces espèces-là. Et d'autres expliquent que effectivement la question de la Gemara c'est que de ce pasouk il semblerait que toutes ces céréales on ne pourrait pas faire la matza avec, ce qui est évidemment pas vrai. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas apprendre la comparaison avec avec le maror. Et la Gemara répond Talmud Lomar matzot matzot riba. Comme il est écrit plusieurs fois dans le pasouk le terme de matzot, ça vient inclure donc le blé et l'orge, que même si dans leur espèce il y a des bikurim, mais tant qu'ils ne sont pas eux-mêmes bikurim, on peut faire la matza avec. La Gemara demande imatzot matzot riba a filou bikurim nami. Mais si de la répétition de matzot on inclut d'autres choses, donc on devrait inclure aussi les bikurim, la Gemara répond à Darbe Rabbi Akiva. Effectivement, Rabbi Akiva est revenu sur de ce limoud. Il apprend pas finalement de maror, mais il apprend comme Rabbi Yossi à Galilée de bechol moshotechem. D'etania, comme on enseigne dans la Breita, yachol yetzé adam ide chovato be bikurim. On pourrait croire que on peut s'acquitter de la mitzvah de achilat matzah avec une matzah qui a été faite avec des bikurim. Talmud lomar bechol moshevotechem tochlu matzot. Donc le pasuk dit bechol moshevotechem tochlu matzot. De là on apprend matzah nechet bechol moshavot. Yatsu bikurim shenan nechalim bechol moshavot et la birushalayim. Donc c'est seulement une matzah qu'on peut manger partout. Ça exclut les bikurim qu'on ne peut pas manger partout, seulement à Yerushalayim. Yachol shanim otzi af maaser sheni. Donc si on exclut ce qu'on ne peut pas manger partout, alors on pourrait croire qu'on exclut aussi le maaser sheni, c'est-à-dire le maaser sheni à Yerushalayim. Une fois qu'on l'a amené à Yerushalayim, on ne peut plus le racheter. Et donc on ne peut pas le manger à l'extérieur de Yerushalayim. Et à part ça, on n'a pas le droit non plus de le sortir de Yerushalayim, donc il n'y a pas de possibilité de le racheter. Talmud Lomar, Matzot, Matzot, Riba. Donc le pasouk dit par ailleurs, plusieurs fois, il emploie ce terme de matzot, donc ça vient inclure, donc ça inclut le maaser sheni. Ou maraita le rabot maaser sheni lo otsi bikurim. Alors, s'il y a un pasouk qui exclut quelque chose, un pasouk qui inclut quelque chose, et qui a les bikurim et le maaser sheni, pourquoi est-ce qu'on décide d'inclure le maaser sheni qu'on peut faire la matzah avec, et d'exclure les bikurim qu'on peut pas faire la matzah avec? On pourrait dire le contraire. Marbe ani maaser sheni, shiyeshlo eter bechol moshavot, kede rabbi Elazar. On inclut le maaser sheni, parce que il peut être permis partout, dans le cas de, comme ce que Rabbi Elazar a dit, dans le cas où il est devenu tamé, comme on va voir tout de suite, d'après Rabbi Elazar, on peut le racheter, c'est-à-dire même s'il était à Yerushalayim, mais si le maaser sheni est devenu tamé, on peut le racheter, et à ce moment-là, le manger partout. Donc, puisqu'il y a une possibilité de le manger partout dans le cas où il devient tamé, c'est pour ça que on peut l'inclure plus que les bikurim, que en aucun cas on ne peut manger ailleurs qu'à Yerushalayim. Donc c'est un bikurim shana meter bechol moshavot, donc j'exclus les bikurim que jamais on pourra les manger partout en dehors de Yerushalayim. De'amar Rabbi Elazar, parce que Rabbi Elazar a dit, minayin le maaser sheni shenitma sheponin oto afilu birushalayim. D'où est-ce qu'on sait que du maaser sheni qui est devenu tamé, on a le droit de le racheter même une fois qu'il est déjà à Yerushalayim? Talmud lomar kilo tuchal seeto. Le pasouk dit kilo tuchal seeto. C'est le pasouk qui parle de la possibilité de racheter le maaser sheni, et c'est écrit kilo tuchal seeto. Donc le pasouk c'est vechirbe mimcha derer kilo tuchal seeto. Si le chemin est loin, ça veut dire que tu es loin de Yerushalayim et tu ne peux pas transporter le maaser sheni jusqu'à Yerushalayim, mais on interprète ven seet et la achila, que le terme de seet ça signifie manger, shneimar vayisa masot met panav, comme c'est écrit dans le pasouk vayisa masot met panav, que c'est Yosef qui a donné donc des parts de nourriture à ses frères. Donc le pasouk emploie le terme de masot pour désigner la nourriture. Donc de là on apprend que le passage qui dit qu'il est otochal seeto, c'est-à-dire tu ne peux pas le manger, et donc tu ne peux pas le manger parce qu'il est tamé. Dans ce cas-là, il y a la possibilité de le racheter. Et l'agma conclut et dit man shamat le damar maaser sheni nafik be Rabbi Akiva. Qui est-ce que tu as entendu dire que on peut s'acquitter de la mitzvah de achilat matzah avec une matzah de maaser sheni? C'est l'avis de Rabbi Akiva. On avait vu plus haut qu'il y a une machloket entre Rabbi Yossi HaGalili et Rabbi Akiva. D'après Rabbi Yossi HaGalili, on ne peut pas s'acquitter avec une matzah de Maaser Sheni, de la mitzvah de Achilat Matzah. Et d'après Rabbi Akiva, oui. Donc si dans cette braïta, on a dit qu'on pouvait s'acquitter avec du Maaser Sheni, c'est que cette braïta va forcément d'après Rabbi Akiva. Vekamam le bikurim, or, dans cette braïta, on voit que il a exclu les bikurim, qu'on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah d'achilat matzah avec une matzah de bikurim, du pasouk qui dit bechol moshevotechem, shma mina adarbe. Donc on peut déduire de là que il est revenu sur ce qu'il avait dit avant qu'on l'apprend du Maror, et qu'il pense maintenant comme Rabbi Yossi HaGalili que on l'apprend de bechol moshevotechem. La Gemara demande, Rabbi Yossi HaGalili, tipokle milechem oni, mishene echal beoni, yatzaze shen echal ela besimcha. Rabbi Yossi HaGalili, pourquoi est-ce que il a besoin d'apprendre que on ne peut pas manger, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de Achilat Matzah avec une matzah de Bikurim du pasouk de Bechol Moshevotechem? Il a qu'à l'apprendre du pasouk de Lechem Oni, comme il a appris le Maaser Sheni, qu'on ne peut pas s'acquitter avec une matzah de Maaser Sheni, donc du mot du pasouk de Lechem Oni, qu'il a interprété comme si c'était écrit Oni avec Aleph. Donc de là, il a appris que c'est seulement quelque chose qu'on peut manger en état de haninout quand on est onen, ce qui exclut donc les bikurim aussi qu'on ne peut manger que besimcha, que en état de joie. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Akiva, on comprend bien qu'il a besoin du pasouk de Bechol Moshevotechem, parce que lui n'interprète pas l'echem oni comme si c'était écrit oni, comme on avait vu plus haut. Donc lui, il a besoin du pasouk de Bechol Moshevotechem pour exclure les bikurim. Mais Rabbi Yossi HaGalili qui a fait cette interprétation de l'Echem Oni comme si c'était écrit Oni, et il a exclu de là le Maaser Sheni, il devrait exclure de là aussi les Bikurim, donc il ne devrait pas avoir besoin du pasouk de Bechol Moshevotechem. Donc pourquoi est-ce qu'il a appris les Bikurim de Bechol Moshevotechem? Agma répond, ça va aller que Rabbi Shimon, c'est parce que Rabbi Yossi HaGalili pense comme Rabbi Shimon, d'Etania, parce qu'on enseigne dans la Breita, Bikurin Asurin Leonen, ve Rabbi Shimon Matir. Les Bikurim sont interdits à un Kohen qui est Onen, donc qui vient de perdre un proche, le jour du décès d'un proche, et Rabbi Shimon permet. Alors Tosfot pose la question inverse. Il demande alors, si Rabbi Yossi HaGalili apprend les Bikurim de Bechol Moshevotechem, pourquoi est-ce qu'il n'apprend pas de là aussi le Maaser Sheni, qu'on ne peut pas s'acquitter avec une matzah de Maaser Sheni? Pourquoi est-ce qu'il a besoin du pasouk de Lechem Oni? Et Tosfot répond que si c'était pas écrit Lechem Oni, on aurait pensé que Moshevotechem, ça exclut seulement les Bikurim, qui ne peuvent jamais être mangés en dehors de Yerushalayim, alors que le Maaser Sheni, comme on a dit, dans le cas où c'est devenu tamé, on peut le manger en dehors de Yerushalayim, on peut le racheter et le manger en dehors de Yerushalayim. Donc on aurait pensé que on l'inclut à partir du pasouk de Matzot. Donc c'est pour ça qu'il a besoin du pasouk de Lechem Oni pour exclure le Maaser Sheni. La Gemara demande Maï Taama de Rabbanan, quelle est la raison des Chachamim qui pensent que un Onen n'a pas le droit de consommer les Bikurim? Dirtiv, lo toucha l'echol bisharecha, parce que c'est écrit dans le pasouk, etc. Et à la fin du pasouk, c'est écrit Trumat Yadecha. Et le Tana dit que Trumat Yadecha, ça désigne les Bikurim, parce que c'est écrit à propos des Bikurim, Velakach HaKohen Atene Mi Yadecha. Donc on apprend que Trumat Yadecha, ça désigne les Bikurim. Des Itkash Bikurim les Maaser. Or, dans ce pasouk de l'Otukhal Lechol Bisharecha, on a comparé les Bikurim au Maaser, puisque c'est écrit Maasar de Ganecha, et par ailleurs c'est écrit au Trumat Yadecha qui désigne les Bikurim. Ma Maaser Asur Leonen, Af Bikurim Asur Leonen. Et de là, les Chachamim apprennent que, de la même manière que le Maaser Sheni est interdit à un Onen, les Bikurim aussi sont interdits à un Onen. Et Rabbi Shimon, Truma Karinu Rachmana, et Rabbi Shimon, donc, qu'est-ce qu'il va faire de ce limoud? Il dit non, la Torah l'a appelé Truma, c'est écrit Truma Tiadecha, qui Truma, donc on compare les Bikurim à la Truma, Ma Truma Muteret Leonen, Af Bikurim Mutar Leonen. De la même manière que la Truma est permise pour un Onen, la Gemara l'apprend du Passouk dans Maaseret Yevamot, donc c'est pareil pour les Bikurim, ils sont aussi permis au Onen. La Gemara demande, Rabbi Shimon, Nei de Kesh Letle, Simcha mi activa, Mirta activa Beou. Donc Rabbi Shimon, même s'il n'apprend pas du Hekesh avec le Maaser Sheni, de la comparaison avec le Maaser Sheni, que les Bikurim sont interdits à un Onen, mais Simcha mi Mirta activa Beou. Mais c'est écrit quand même le terme de Simcha à propos des Bikurim, Dirti Vesamarta Becholatov, parce que c'est écrit Vesamarta Becholatov, et ce passouk parle aussi des Bikurim. La Gemara répond, Aou lisman simcha ou deata. Ce passouk n'est pas venu nous apprendre que on doit manger les bikurim seulement en état de simcha, en état de joie, et donc ce qui viendrait exclure le onen, mais ça vient nous indiquer la période pendant laquelle, quand on apporte les bikurim, on doit également lire un passage de la Torah, le passage de Arami Oved Avi. Donc il y a une certaine période pendant laquelle, si on apporte les bikurim, on lit aussi ce passage. C'est la période de Simcha, c'est-à-dire pendant la période de la récolte, où l'homme est joyeux parce qu'il récolte le fruit de son labeur. D'Etnan, comme on enseigne dans la Mishnah, Ma'atzeret v'adachag meviv et koré. Donc de Shavuot jusqu'à Sukkot, lorsqu'on apporte les Bikurim, non seulement on les apporte, mais on doit lire aussi ce passage de Arami Oved Avi, parce que ça c'est la période de la récolte, où l'homme est joyeux. Et avant Shavuot, on ne peut pas apporter des bikurim du tout. On apprend ça du fait que la mincha de Shavuot, qui est le shté alechem qu'on apporte à Shavuot, est appelée bikurim, et c'est ce qui permet de commencer à apporter les bikurim. On ne peut pas apporter les bikurim avant ça. Et donc depuis Shavuot jusqu'à Sukkot, lorsqu'on apporte les bikurim, on lit aussi le passage de Arami Oved Avi. Mais à Chag Vatranouka, mais vive et non koré. Par contre, si on apporte les Bikurim depuis Sukkot jusqu'à Chanouka, on apporte effectivement les Bikurim, mais on ne lit pas le passage de Arami Oved Avi. Et après Chanouka, on n'apporte plus les Bikurim du tout. On apprend ça du pasouk qui dit Asher Tavi Me'artsecha. De là, on apprend que tant qu'il y a des fruits dans le champ, on peut apporter les bikurim, mais après Hanouka, il n'y a plus de fruits dans les champs, donc on n'apporte plus les bikurim. Tanou Rabanan, on en fait dans une braïta, Lechem Roni, Prat Lechalut Vela Shisha. Donc le pasouk a désigné la matzah par le terme de Lechem Roni, un pain de pauvreté. Donc de là, on exclut Chalut. Alors Chalut, Rashi explique que c'est une matzah qui a été faite avec de la farine qui a été ébouillanté, et donc c'est quelque chose d'important. Alors, Tosfot et d'autres Rishonim font remarquer qu'il y a une contradiction entre différentes Gemarot. Il y a une Gemara qui dit que le Chalout, c'est pas considéré du tout comme l'Echem, c'est pas considéré comme du pain, donc ça veut dire que c'est pas à cause de l'Echem Oni que c'est exclu, mais parce que ça s'appelle pas du pain, c'est même pas Chayav de Chala. Il y a une autre Gemara qui dit que on peut être yotzé de la mitzvah de la Achilat Matzah avec du chalout, et les Rishonim expliquent qu'il y a différentes sortes de chalout, il y a différentes manières de répondre à cette contradiction. En tous les cas, il y a une sorte de chalout qui ne peut pas servir à s'acquitter de la mitzvah de la Khilat Matzah, parce que c'est écrit dans Passouk, l'Echem Oni. Vela Shisha, et ça exclut également Ashisha. Ashisha, c'est une très grande galette qui, là aussi, est importante. Il y a d'autres explications, mais ça, c'est l'explication de Rashi. Donc, là aussi, c'est exclu par le terme de l'Echem Oni, qui dit un pain de pauvreté, pas quelque chose qui est chashuv, qui est important. Yachol lo yetze adam ide chovato et la bepat adera. Donc, si c'est écrit l'Echem Oni, on pourrait croire que on s'acquitte de la mitzvah de Khilat Matzah qu'avec du pain de son, qui a été fait avec de la farine mélangée avec du son, qui est quelque chose qui n'est pas important, qui est un aliment de pauvre. Talmud Lomar, matzot, matzot, riba, va filou ke matzot shel Shlomo. Donc comme le Passouk a écrit plusieurs fois matzot, donc ça inclut que même une matzah comme la matzah de Shlomo Amelech, donc qui mangeait des mets délicats, donc certainement qu'il mangeait du pain qui était fait avec de la farine propre, qui était nettoyée du son, donc ça aussi on peut s'acquitter avec. Imkel matalmud lomar lechem oni. Donc pourquoi d'un autre côté le pasouk dit lechem oni, un pain de pauvreté, prat lechalut vashisha, ça vient exclure donc ces deux sortes de matzot, le chalut et la hashisha. Gemara dit umay mashma da hashisha lishna de chashivuta. Et qu'est-ce qui nous fait dire que ce terme de hashisha désigne quelque chose d'important, une matzah importante, nirtive, parce que c'est écrit dans le pasouk à propos de la seouda que David Amelech a faite lorsqu'il a ramené le Aaron HaKodesh à Yerushalayim ou Bet HaMikdash. C'est écrit Vaychalek lechol ha'am lechol amon Israël le meish vadisha leish chalat lechem achat veishpar echad vashisha achat. Donc on décrit ce qu'il a distribué à tous les bnei Israël. Donc lechem achat, un pain, veishpar echad vashisha achat. Ve'amar Rabbanan Baraba, et Rabbanan Baraba a dit eshpar echad mishisha bepar. Il dit ce terme de eshpar, ça désigne un sixième d'un bœuf. C'est-à-dire qu'il a donné un grand morceau de viande à chacun, qui était la taille d'un sixième, le sixième d'un bœuf entier. Hashisha, et le terme de hashisha, qu'est-ce que ça veut dire? Echad mishisha be'efa, c'est un sixième d'une efa, donc c'est une très grande galette, qui est faite avec un sixième de efa de farine. Ou pliga de Shmuel, et cette interprétation de Rav Hanan Baraba est en désaccord avec l'interprétation de Shmuel, d'Amar Shmuel, parce que Shmuel a dit Hashisha garba de chamra, lui dit que Hashisha ça désigne une cruche de vin, dirti vohave Hashisha anavim, comme c'est écrit dans le pasouk vohave Hashisha anavim, donc ceux qui aiment le vin, donc Hashisha anavim, c'est des cruches de vin.